VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. La police sud-africaine patrouillait aujourd'hui les rues de Johannesburg après une deuxième nuit de violence et de pillage où des commerces ont été brûlés. Des policiers ont tiré des balles en plastique pour disperser les émeutiers. L'Afrique du Sud est le théâtre depuis dimanche soir d'une nouvelle vague de violence et de pillage à caractère xénophobe. Plus de 110 personnes ont été arrêtées selon les derniers chiffres des autorités qui ont également fait état du meurtre d'un civil dans des circonstances qui restent à éclaircir. En République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré hier à Kinshasa que les Nations Unies n'abandonneront pas le peuple congolais. Idrissa Seydoudia.
Monsieur Guterres a passé 3 jours en RDC où il a rencontré le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi. Il a dit avoir pu constater un vent d'espoir, une opportunité à saisir, et il a lancé un appel à la communauté internationale à appuyer le peuple congolais et les autorités. En avril, l'ONU a renouvelé le mandat de la MONUSCO en RDC jusqu'au 31 décembre. Selon Antonio Guterres, la RDC a toujours besoin de l'ONU pour la lutte contre l'épidémie Ebola et le maintien de la paix dans l'est du pays, où 130 groupes armés ont tué 1900 personnes en 2 ans, d'après le groupe d'études sur le Congo.
L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la mission des Nations unies en République centrafricaine ont condamné hier des affrontements d'une rare violence entre groupes armés dans l'extrême nord-est de la Centrafrique. Des milliers de civils ont pris la fuite après des combats dimanche et lundi matin dans la ville de Birao, opposant 2 groupes armés signataires de l'accord de paix conclu avec le gouvernement début février. Des incidents inacceptables qui constituent une violation flagrante de l'accord de paix de Khartoum ont estimé les 3 organisations internationales dans un communiqué commun. Au Cameroun, rentrée scolaire lundi pour les élèves déplacés internes de la crise anglophone, notamment pour ceux de Yaoundé, mais aussi avec quelques spécificités. Reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Julintap.
En ce jour de rentrée scolaire, dans celui-ci, 2 salles de classe ont été aménagées pour les élèves déplacés internes. Bridget Namando Ngomba, proviseur du lycée bilingue de Tougébi.
On a fait le recrutement, mais tous les dossiers, il y avait les gens qui regardaient strictement les bulletins des enfants déplacés. Parce que c'est avec ça qu'on pouvait juger qui est déplacé et qui n'est pas déplacé. Il y en a ceux qui viennent avec quand même l'acte de naissance et un vieux bulletin.
Les éditeurs ont une nouvelle fois produit le livre scolaire pour le système anglophone, malgré les pertes financières. Rogers Mforgwe, président-directeur général de NMI Education.
NMI fait le livre pour anglophones. Nous n'avons pas hésité d'investir. Peut-être pas au même niveau d'investissement que chez les francophones, parce que démographiquement parlant, il y a une différence. Mais les autres que je connais qui fait dans le livre pour le sous-système anglo-saxon ou anglophone au Cameroun, ils ne refusent pas d'investir. Nos livres sont disponibles.
Dans cette église de Yaoundé, les ressortissants des zones anglophones se sont aussi mobilisés en faveur des élèves déplacés internes. Dr Pius Mokongu, coordonnateur du comité d'aide aux déplacés à la Presbyterian Cameroonian Church à Yaoundé, en Siméon, à Yaoundé.
Pour nos élèves, nous avons donné des petites bourses et puis la distribution de certaines besoins élémentaires comme le savon, le cahier et puis du riz. Pour les élèves, ils vont tous partir à l'école et c'est aussi notre souhait. Et notre activité n'est pas passée terminée aujourd'hui parce que pour cette journée, c'est essentiel pour la rentrée. Mais on va essayer encore de les suivre au cours de l'année parce qu'il y a certains besoins qui ne sont pas au moins réunis aujourd'hui. Et pendant l'année, on va voir comment notre congrégation toujours va essayer de les apporter encore plus d'aide.
Le gouvernement ne cache plus son inquiétude au vu du faible taux de scolarisation dans les zones anglophones ces 3 dernières années. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
La police bissau-guinéenne a saisi lundi plus de 1,8 tonnes de cocaïne en provenance de Colombie, la plus grosse prise de l'histoire de ce pays considéré comme une zone de transit entre l'Amérique latine et l'Europe. 8 suspects, 3 Colombiens, 4 Bissau-Guinéens et 1 Malien ont été arrêtés à la suite de cette saisie qui s'est opérée en 2 temps dans 2 localités proches de la côte nord du pays, à quelques 120 km de la capitale Bissau. La campagne présidentielle a officiellement démarré lundi en Tunisie, plus d'un mois après le décès du chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. Un scrutin aussi indécis que vital pour l'unique pays rescapé des printemps arabes de 2011 qui doit consolider les acquis démocratiques. Prévue en novembre, cette élection a été anticipée du fait de la mort le 25 juillet d'Essebsi à l'âge de 92 ans, premier président élu au suffrage universel direct, et aura finalement lieu le 15 septembre. Ces élections doivent permettre à la Tunisie de poursuivre son processus démocratique qui a tenu bon malgré un malaise économique et social persistant et une situation sécuritaire difficile avec des dizaines de morts lors d'attentats en 2015-2016.
Nos infos sur voaafrique.com.
Il est 7:06 à Washington. Afghanistan, au moins 16 civils ont péri dans un attentat revendiqué par les talibans qui a secoué Kaboul tard lundi au moment où l'émissaire américain Zalmay Khalilzad s'y trouve en visite pour discuter d'un accord de paix avec les insurgés. Les talibans ont revendiqué l'attaque menée selon leur porte-parole Zabihullah Mujahid par un kamikaze et un commando. Et pour le processus de paix, on en sait un peu plus sur l'accord cadre auquel sont parvenus les États-Unis et les insurgés talibans en vue de ramener la paix en Afghanistan. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le document prévoit le retrait des troupes américaines de 5 bases militaires dans un délai de 135 jours à compter de sa signature. 5 000 de 14 000 soldats américains déployés en Afghanistan seront concernés par ce retrait, a expliqué le principal négociateur américain Zalmay Khalilzad lundi sur une chaîne de télévision privée afghane. Dans un premier temps, Kaboul, la province voisine de Parwan, qui abrite la base aérienne américaine de Bagram, verront une nette réduction de la violence, a assuré Khalilzad, en précisant que le texte final de l'accord ne sera publié qu'après le feu vert du président Donald Trump. En attendant, les discussions se poursuivent avec les talibans pour déterminer où et quand l'accord de paix sera signé, a-t-il indiqué. Toute tentative des talibans de reprendre le pouvoir par la force sera inacceptable et constituera une ligne rouge pour les États-Unis, a prévenu Khalilzad, qui a briefé le président afghan Ashraf Ghani sur l'accord cadre.
Le président iranien Hassan Rouhani a exclu aujourd'hui l'idée de discussion bilatérale avec les États-Unis, affirmant que son pays y était opposé par principe, selon le site officiel du gouvernement iranien. M. Rouhani, qui s'exprimait au Parlement, a également déclaré que la République islamique pourrait réduire encore davantage ses engagements en matière nucléaire dans les prochains jours, si d'ici à jeudi, les négociations sur le sujet avec les Européens n'aboutissent à aucun résultat. Le ministre chinois des Affaires étrangères en visite à Pyongyang a réaffirmé aujourd'hui le soutien de Pékin à la Corée du Nord, promettant une étroite communication avec son partenaire au moment où les pourparlers avec Washington sont dans l'impasse. Depuis mars 2018, le président chinois Xi Jinping et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont rencontrés 5 fois, Pékin cherchant à apaiser sur les relations diplomatiques entre Pyongyang et Washington. Pékin est le principal allié diplomatique et économique de la Corée du Nord. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, qui consensuelle depuis 3 mois la colère du mouvement pro-démocratie, a affirmé mardi n'avoir aucune intention de démissionner après la fuite d'un enregistrement audio dans lequel elle dit vouloir quitter son poste. L'ex-colonie britannique traverse depuis juin sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. La mobilisation est partie du rejet d'un projet de loi de Carrie Lam qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine. Le texte a été suspendu, mais les manifestants ont élargi leurs revendications pour dénoncer le recul des libertés à Hong Kong et des ingérences grandissantes de la Chine dans les affaires de sa région semi-autonome. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque qui sera là. Donc dans 50 minutes. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Personnel.